Le journal, Pierre Veil.
Bonjour Philippe Bertrand, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, les rumeurs infondées qui visent des Roms en région parisienne. Sur ces rumeurs, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, dénonce des dérives inacceptables. Dans un instant, nous serons avec Mathilde Dehimy dans un camp de Roms à Bobigny, où l'on craint toujours des représailles. La réforme de la fonction publique adoptée ce matin en Conseil des ministres, objectif du gouvernement, moins de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat. Chez Renault, les plus hauts salaires ont augmenté de 15% l'an dernier, enquête de Maxime Debs. L'administration Trump veut renvoyer des hommes sur la Lune d'ici 2024. En Algérie, un parti, le principal allié d'Abdelaziz Bouteflika, réclame ce matin sa démission. Le président algérien de plus en plus isolé. Information France Inter, le retour en France d'une fillette emmenée par ses parents sur les territoires de l'État islamique en Irak. L'emballage plastique, il ne faut pas qu'il soit automatique. Journée spéciale d'information sur France Inter, Sandy Dauphin.
Oui, et pour nettoyer les océans, les bateaux bennes à ordures ne suffiront pas. Il faut agir avant, sur Terre, nous dira l'océanographe François Galgani dans ce journal.
Et en France, pourquoi seulement 26% de nos déchets ménagers en plastique sont recyclés? Nous poserons la question à notre invité, Jean Ornin, qui est directeur général de l'organisme chargé du recyclage des emballages. Et puis le mercredi, le cinéma avec Eva Bétan, deux cinéastes, un Israélien et un Hongrois, Nadav Lapid et Laszlo Nemes. La météo, Sébastien Léas, aujourd'hui?
Oui. Eh bien, aujourd'hui, plein soleil sur une large moitié sud des régions méditerranéennes et des Pyrénées au Poitou jusqu'en Bourgogne-Franche-Comté. Le ciel sera un peu plus variable, plus au nord, à cause de grisailles qui tardent à évoluer, mais également à cause de petits cumulus qui fleurissent, notamment actuellement en Vendée, Touraine et sur le Grand Est. Puis avec ce temps globalement ensoleillé, les températures sont en hausse, 11 à 21 degrés des plages de la Manche à la Méditerranée.
Sébastien Léas, bulletin complet, météo à la fin de ce journal.
France Inter.
Trois adultes vont être jugés en comparution immédiate aujourd'hui à Bobigny après des violences lundi soir contre des Roms en région parisienne. Des Roms désignés par des rumeurs sur les réseaux sociaux comme étant à l'origine d'enlèvements d'enfants en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine. La préfecture de police a appelé lundi et mardi sur Twitter à ne pas relayer ces fausses informations et ajoute que les rumeurs de kidnapping d'enfants avec une camionnette sont totalement infondées. Aucun enlèvement n'est avéré. Mathilde Dehimy, bonjour.
Bonjour Pierre.
Mathilde, vous êtes en direct avec nous à Bobigny, dans un camp de Roms. Un camp où les Roms ne sont pas tranquilles. Ils ont veillé toute la nuit par crainte de nouvelles agressions.
Oui, et ils veillent encore hein, à côté de nous aujourd'hui, ce matin. Hommes et femmes se sont relayés cette nuit autour du feu pour garder les caravanes. Ils ont amassé quelques affaires, des frigos notamment, pour garder l'entrée, raconte Paul.
On était tous dans au feu là, et on a resté pour voir s'il va venir, s'il
la
va pas venir. On met des frigos, il y a même la police parfois, il vient, il reste dans la porte. On attend, tu vois.
Un peu plus loin, sur la route, se trouvent six hommes bulgares. Ce sont eux qui ont été attaqués en premier dans la nuit de lundi à mardi. Ils ne veulent pas parler de leur voiture brûlée. Mais Christina, qui vit dans le camp roumain, se souvient bien de l'arrivée de dizaines d'hommes armés.
Ils ont cassé leur voiture et après, le lendemain, ils voulaient venir chez nous.
Ici, dans le camp, on ne comprend pas l'origine de cette rumeur sur des enlèvements d'enfants.
Les Roumains n'ont pas volé les petits garçons, les petits
enfants. Ils ont attaqué les gens comme ça, ils ne savent même pas si c'est vrai ou pas. Ils ont menti, ils ont mis un annonce faux. Et c'est pas notre faute.
Une rumeur fausse qui a pourtant des conséquences, notamment sur la vie des enfants. Anna Maria a 9 ans.
Tout le monde n'était pas à l'école. Ma mère, il voulait pas. Moi aussi, je voulais pas parce que j'avais peur et c'est pour ça.
Ce soir, les Roms seront toujours là à l'entrée du camp, vigilants, soulagés aussi de voir la police passer régulièrement. De toute façon, dit un homme résigné, il y a toujours eu des périodes de tension avec les autres habitants.
Voilà Mathilde Dehimy en direct à Bobigny dans un camp de Roms avec les moyens techniques de Romain Lucas. Et ce matin, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est revenu sur ces rumeurs visant les Roms en région parisienne. Il a sévèrement condamné ces rumeurs d'enlèvement qui visent des Roms et qui ont entraîné des violences.
C'est malheureusement la démonstration de la nécessité absolue de lutter contre les fake news, en permanence, rappeler l'importance de l'information, de la qualité des sources, de rappeler l'importance du travail journalistique. Objectivement, en 2 ans, cet environnement, cet écosystème a été bouleversé et a changé du tout au tout. faut qu'on puisse adapter nos réponses à la fois judiciaires, pénales, à la violence qu'on peut aujourd'hui constater et aux dérives absolument inacceptables qui visent en particulier la communauté rom depuis quelques jours.
Le projet de loi sur la fonction publique a franchi une étape décisive avec sa présentation en Conseil des ministres ce matin. Embauche de contractuels, création d'un contrat de projet, sorte de CDD de 1 à 6 ans, possibilité de rupture conventionnelle, une réforme rejetée par l'ensemble des syndicats de fonctionnaires qui organisent des rassemblements aujourd'hui partout en France. Pour le gouvernement, cette réforme est une nécessité pour rendre, je cite, la fonction publique plus attractive et plus réactive, tout en réduisant le nombre de fonctionnaires. Écoutez ce qu'en disait ce matin Olivier Dussopt, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, au micro de Cyril Graziani.
L'objectif de 120 000 est un objectif maintenu et tel que le président de la République s'est engagé pendant sa campagne, c'est-à-dire 70 000 dans le secteur des collectivités. Pour l'État, c'est 50 000. Nous travaillons budget par budget et le budget pour l'année 2020 n'est pas encore établi. Nous avons 6 000 emplois en moins dans le budget 2019 au rythme du non-remplacement des départs à la retraite. Tous les dispositifs du texte vont permettre d'aider les ministères, les élus locaux, les directeurs d'hôpitaux à tenir ces objectifs. Je dis directeur d'hôpitaux en précisant d'emblée que pour l'hospitalière, il y a un objectif à zéro, puisqu'il a été considéré par le président pendant la campagne que le secteur hospitalier était suffisamment en tension, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une charge de travail qui est importante, et donc il n'y a pas d'objectif de diminution d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, de nouveau sous pression avec une nouvelle plainte d'anticorps sur ses liens familiaux controversés avec l'armateur italo-suisse MSC. L'association anticorruption accuse cette fois le bras droit d'Emmanuel Macron de faux et usage de faux et d'omission substantielle de ses intérêts, en l'occurrence d'avoir dissimulé dans différentes déclarations sur l'honneur ses liens familiaux avec l'armateur et le fait d'avoir été impliqué comme fonctionnaire dans des décisions concernant MSC. Chez Renault, les plus hauts salaires ont augmenté de 15% l'an dernier. Une information de France Inter de Maxime Deps. Maxime, bonjour.
Bonjour.
Vous avez consulté le bilan annuel de l'entreprise présenté aujourd'hui aux syndicats. Des syndicats qui dénoncent vigoureusement ces chiffres et parlent d'injustice dans la mesure où le salaire moyen dans l'entreprise Renault n'a pas progressé.
Oui, et d'autant plus que ce n'est pas la première année qu'une augmentation de la sorte est constatée. Si on regarde les chiffres de 2016, qu'on les compare à ceux de l'an dernier, la hausse est même de 35%. Le pire pour Fabien Gage de la CGT, c'est que rien ne semble changer. Le départ de Carlos Ghosn devrait obliger la direction à envoyer des signaux différents. Mais non, apparemment, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Pour l'instant, il n'y a rien qui change, en tout cas, puisque dans ce qui a été annoncé, aucune disposition particulière ne nous a été communiquée sur une modification du mode de fonctionnement qui porte sur les rémunérations.
Alors, qui sont ces 10 super cadres dont la rémunération fait débat? La direction parle notamment de talents, de designers, d'ingénieurs, dont les compétences n'ont pas de prix dans un monde de l'automobile ultra concurrentiel. Autre explication invoquée par la direction, des cadres ont également quitté Renault l'an dernier. L'entreprise a donc dû leur payer des indemnités de départ qui compteraient dans cette enveloppe qui augmente.
Les syndicats, Maxime Deps, réclament en tout cas plus de transparence.
Oui, un représentant des salariés qui, lui, n'est pas à la CGT, plutôt dans le camp des réformistes, va même plus loin. Il évoque le cas, selon lui, d'une poignée d'employés, quelques dizaines, voire quelques centaines, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, sinon qu'ils disposeraient d'un salaire fixe, assorti à un autre, variable, fonction des résultats, un complément qu'ils ne peuvent toucher que s'ils atteignent leurs objectifs de marge. Mais ce qui est bon pour leur portefeuille, est-il bon pour l'entreprise? C'est la question que pose ce leader syndical.
Enquête de Maxime Deps. Le tribunal de grande instance de Strasbourg accorde un nouveau délai jusqu'au 24 avril à l'aciérie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord, avec ses 281 salariés, pour la recherche d'un repreneur. Le plastique, non merci, journée spéciale sur la pollution plastique sur France Inter et ce constat. Nous avons créé un véritable monstre marin. 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés chaque année dans les océans. D'immenses nappes de plusieurs milliers de kilomètres carrés de détritus flottants se sont formées à la surface. On les appelle les continents de plastique. Il y en a désormais 5 sur la planète. Témoignage à ce propos au micro de Sandy Dauphin, de François Galgani. Il est chercheur à l'IFREMER. Il est aussi expert sur les déchets marins pour la Commission européenne. Et pour cet océanographe, il est utopique de penser qu'on va collecter tout ce plastique flottant. Il faut agir en amont, sur Terre, avant que le déchet n'arrive dans l'océan.
À la surface, on sait qu'il y a de l'ordre de 5000 milliards d'objets qui flottent, mais ça représente simplement 1%, l'essentiel étant sur le fond. C'est-à-dire 99% des plastiques, en fait, sont sur le fond des océans.
Alors, le mieux, c'est la prévention, bien évidemment, parce que récupérer en mer est très loin. Il y a bien des jeunes qui ont envisagé, si vous voulez, d'aller nettoyer. C'est plus une aventure humaine que régler un vrai problème d'environnement. Donc, le mieux, c'est la prévention, c'est-à-dire le recyclage, l'interdiction de certains types de plastiques, comme ça a été pris, comme les décisions qui ont été prises récemment en Europe pour les plastiques à usage unique. C'est également, un meilleur traitement des eaux, par exemple. Et globalement, ça diminuera les apports. Après, on peut récupérer, dans certains cas, certains déchets parce qu'ils ont de la valeur. Par exemple, des filets qu'on peut réparer et réutiliser ou recycler. Mais globalement, c'est surtout au niveau de la prévention et bien évidemment, l'éducation a un rôle important à jouer. À terme, dans le futur, on aura peut-être des matériaux qui seront plus facilement recyclables et qui seront moins conséquents pour l'environnement.
Invité de ce journal avec Sandy Dauphin, Jean Ornain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Citeo, l'organisme en charge du recyclage des emballages en France. Alors, le nom de votre éco-organisme ne parle peut-être pas à tout le monde. Pour bien comprendre, vous êtes financé par les grandes marques comme Danone, McDo, Coca-Cola pour recycler les emballages. C'est le principe du pollueur-payeur. On vient d'entendre le témoignage d'un océanographe. Est-ce que la grande distribution, selon vous, a pris la mesure de cette pollution plastique globale sur la planète?
Oui, elle a pris. Tout le monde aujourd'hui a pris la mesure de cet enjeu majeur. Effectivement, de toute façon, ces entreprises-là exercent depuis 25 ans ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire celui qui met sur le marché un produit qui a un emballage, a la responsabilité de la fin de vie de cet emballage. Et donc, ces entreprises investissent chaque année à peu près 700 millions d'euros pour financer l'éco-conception, le tri et le recyclage des emballages. Et donc, ce qui a permis à la France d'atteindre un taux de recyclage global de 70%. Mais le sujet que vous posez, c'est que finalement, on a très bien réussi jusqu'à aujourd'hui le verre. Le taux de recyclage du verre, c'est 86%. Et le taux de recyclage du plastique, c'est-à-dire qui est le dernier, on va dire, des plastiques, est aujourd'hui de 25%. Mais les entreprises sont totalement impliquées dans ce sujet-là, puisque ce sont bien elles qui financent et assument cette responsabilité. Et encore une fois, les consommateurs et tout le monde a une énorme sensibilité au sujet et aux futurs enjeux.
Mais un quart des emballages plastiques recyclés, c'est quand même... pas terrible par rapport aux objectifs initiaux. Comment expliquer en fait qu'on ait du mal à enclencher la vitesse?
On parle du plastique, mais en fait il y a une dizaine de résines plastiques, donc c'est celui qui est le plus complexe à recycler. Et si vous prenez les emballages ménagers, aujourd'hui vous avez à peu près 1 million de tonnes d'emballages ménagers mis sur le marché. Pour les trois quarts, il y a des solutions techniques de recyclage. Donc en fait, on sait techniquement les recycler. Et après, il nous reste un quart pour lequel, finalement, ce sont des emballages complexes, multiformes, pour lesquels il n'y a pas encore de solution.
En gros, on sait bien recycler les bouteilles en plastique, les bidons de lessive,
les flacons. On a des solutions pour les pots de yaourt, les barquettes
de
jambon.
Alors, les pots de yaourt, on va y venir. Que c'est quand même...
Et après, il reste encore une partie, donc à peu près un quart, sur lesquels il n'y a pas encore de solutions. Et tout le travail, et une partie du travail de Citeo d'ailleurs, qui est d'accompagner les entreprises sur ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est quoi l'éco-conception? C'est la réduction, donc l'allègement ou la suppression, ou c'est le fait de transformer un emballage qui n'était pas recyclable en emballage 100% recyclable.
Faire des emballages plus écolos.
Mais vous dites qu'il n'y a pas de solution pour certains emballages. Pourquoi il n'y a pas de solution?
Parce qu'elles n'ont pas encore été créées ou imaginées techniquement. Et donc tout le travail d'éco-conception aujourd'hui, c'est bien celui-ci. C'est-à-dire tout ce qui a été imaginé à l'époque pour, on a supprimé les bouteilles en PVC pour les remplacer par des bouteilles en PET qui sont totalement aujourd'hui recyclables. Et donc il y a bien un processus dans le domaine du plastique, effectivement, d'évolution des technologies qui nous permettent d'ici dans les 5 ans qui viennent, de dire il y aura des solutions pour 100% des emballages.
Si après, ça présente un intérêt économique, si les industriels trouvent que ça vaut le coup de recycler ces matières-là. Vous prenez le paquet de chips, par exemple. Alors, c'est typiquement le truc qu'on peut pas recycler parce que c'est un mélange de résine, c'est à la fois du plastique, de l'alu. Qui va se lancer dans le recyclage du paquet de chips? Ça intéresse qui?
En fait, pour le paquet de chips, vous pouvez aussi imaginer, il y a des solutions de substitution qui sont à l'étude. Je vais vous donner un exemple. Il y a des solutions dans le domaine du fibreux, de la cellulose. Il y a même une entreprise en Finlande qui fait un plastique avec du papier, si je puis dire. Et donc, vous avez des solutions de substitution qui sont en train de se dessiner. Et dans le cas du paquet de chips, en fait, on peut imaginer demain qu'il soit non pas en multimatériaux, mais en monomatériaux, un seul type de plastique qui est parfaitement recyclable. Donc, il y a des solutions.
Petite précision, puisque vous parliez du pot de yaourt, c'est vrai que c'est un produit qu'on cite souvent. La plupart des pots de yaourt aujourd'hui vendus en France sont en polystyrène, c'est pas un matériau recyclable. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas en polyéthylène, en polypropylène, pardon?
Alors, il est recyclable. On en fait d'ailleurs des porte-manteaux. Le seul sujet, c'est qu'on en fait des porte-manteaux et des pots de fleurs. Et qu'il y a très peu de recycleurs de polystyrène en Europe. Et du coup, ce qu'on a fait là, nous, c'est qu'on crée ce qu'on appelle une filière et un débouché. Donc, on l'a fait avec l'entreprise Total, qui est un producteur de polystyrène, qui, au lieu d'aller se fournir uniquement dans les puits de pétrole, va se fournir dans nos poubelles pour intégrer du polystyrène recyclé dans son process. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a un sujet. Et il y a des solutions. Notre travail à nous, en tout cas, c'est de trouver les solutions. Et dans les solutions, il y a la réduction, la substitution et le fait que tout soit 100% recyclable. Et c'est bien l'objectif de Citeo. Et dans 5 ans...
Mais juste un point, Jean Ornain, vous êtes directeur général de Citeo, vous êtes financé par les grandes marques, Danone, McDo, Evian, parmi les plus gros producteurs d'emballages, donc de déchets plastiques dans le monde. Est-ce que vous êtes vraiment en position de leur faire la morale? Vous, ça vous arrange bien, puisque vous faites du recyclage.
Ce ne sont pas des producteurs d'emballage. Non, je veux dire, un industriel n'a pas un intérêt à produire de l'emballage. Plus il produit de l'emballage, plus il paye son emballage, et plus il paye à Citeo le prix de la fin de vie de cet emballage. Et donc, si vous voulez, les entreprises, moi je trouve très moderne le fait que les entreprises aient pris cette responsabilité. Et si vous prenez les résolutions de l'ONU de la semaine dernière à l'ONU, en fait, ce qu'il dit, c'est que pour résoudre ce problème-là, il est nécessaire de développer des systèmes comme celui qui a été installé en France, cette responsabilité des producteurs. Ils l'ont, ils peuvent l'exercer. Et il y aura des solutions.
Jean Ornain, directeur général de Citeo, l'organisme en charge du recyclage des emballages en France, était l'invité du journal de France Inter à 13h. Journée spéciale d'information sur France Inter consacrée à ces méfaits du plastique. Et en attendant, vous pouvez nous proposer vos astuces, vos solutions sur les comptes Twitter et Facebook de France Inter. Le plastique, non merci. Ces messages seront relayés dans le téléphone sonne ce soir à 19h20 avec Fabienne Sintès. Merci beaucoup. C'est une information France Inter, 10 jours après le retour de Syrie de 5 orphelins français rapatriés dans un avion militaire. C'est le retour aujourd'hui d'une autre enfant française. Elle avait été emmenée sur les territoires de l'État islamique par ses parents. Sophie Parmentier, bonjour.
Bonjour.
Cette fois, la petite fille revient d'Irak.
Oui, c'est une enfant âgée de 3 ans et demi, une petite fille qui n'avait que quelques mois quand en 2016, elle a quitté la France, emmenée par ses parents à Mossoul, ville irakienne alors contrôlée par Daesh. Cette fillette avait un grand frère, à peine plus âgé qu'elle, qui a été tué au bout de quelques mois dans un bombardement. Leur père, djihadiste, est mort peu après et la fillette s'est ainsi retrouvée seule avec sa mère, Djamila Boutoutaou, qui a été la première française arrêtée en Irak puis condamnée à 20 ans de prison l'année dernière devant la Cour pénale centrale de Bagdad pour avoir rejoint Daesh en famille. Depuis l'arrestation de sa mère, la fillette était elle aussi emprisonnée en Irak, dans une prison que nous avons pu visiter il y a 2 mois, la prison pour femmes de Bagdad, sans jouets pour les enfants, avec une cour de promenade grillagée beaucoup trop étroite pour que les enfants puissent courir. Depuis le nord de la France, Saïda, la grand-mère de la fillette, réclamait son retour. Elle en avait appelé la semaine dernière à Emmanuel Macron pour l'aider à récupérer l'enfant. Cet enfant est en train de rentrer par avion en France, accompagnée par la Croix-Rouge, et elle sera immédiatement prise en charge par l'aide sociale à l'enfance à son arrivée, sous la surveillance de juges des enfants. Sa mère, elle, continuera à purger sa peine de prison en Irak.
Sophie Parmentier. En Algérie, le Rassemblement National Démocratique, principal allié du FLN d'Abdelaziz Bouteflika, demande ce matin la démission du président algérien. Hier, c'est le chef d'état-major de l'armée qui demandait que le président algérien soit déclaré inapte à gouverner par le Conseil constitutionnel. Thibaut Cavaillès, bonjour.
Bonjour Pierre.
Cible depuis le 22 février d'une contestation sans précédent, Abdelaziz Bouteflika est lâché peu à peu par ses plus fidèles soutiens et il paraît de plus en plus isolé. L'armée semble prendre le le pouvoir et vouloir surtout garder la main sur la suite des événements.
L'armée qui était déjà en partie aux commandes en Algérie, mais avec le pays en ébullition en ce moment, elle semble vouloir désormais tenir le manche toute seule. Déjà, la proposition d'hier d'activer cet article 102 sur l'empêchement du président a été faite depuis une ville à 900 km d'Alger, loin du pouvoir. Donc, selon un site d'information algérien, Saïd, le frère et très proche conseiller du président Bouteflika, n'en aurait pas été informé en amont. Et puis, depuis 15 jours, déjà, le chef d'état-major, le général Salah, dans ses discours, ne salue plus le président, mais insiste sur l'armée et son rôle, notamment de rempart du peuple et de la nation. La menace djihadiste, rappelons-le, est toute proche de l'Algérie. L'armée, donc, qui sifflerait la fin de la partie. Et du coup, ces propos du président Bouteflika en 1999 prennent aujourd'hui un tout autre écho.
Aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire.
Voilà, et aujourd'hui c'est celui qui dit tout devoir à son président, le général Salah, qui propose donc de le bouffer, de le mettre à l'écart. Voilà de quoi encourager l'hémorragie déjà bien entamée. Le RND, principal allié du FLN de Bouteflika, lui demande aussi de démissionner, c'était ce matin. Pour autant, Pierre, les Algériens restent sceptiques, évoquent un coup d'État. Hakim Haddad, militant très actif.
C'est une nouvelle supercherie qu'ils sont en train d'essayer et qu'ils n'arriveront pas à vendre, en tout cas aux Algériennes et aux Algériens. Nous ne sommes pas dupes, c'est une partie de l'état-major de l'armée qui, avec le pouvoir, essaye de gagner du temps et de se maintenir coûte que coûte.
Mais les Algériens veulent la fin de tout un système et l'activation de cet article 102 laisserait au pouvoir le gouvernement actuel pendant plusieurs mois alors que la présidentielle était toute proche le 18 avril prochain. Rendez-vous est déjà pris pour manifester vendredi.
Thibaut Cavaillet sur la situation en Algérie. C'était en octobre 2018 la mystérieuse disparition du patron d'Interpol, le chinois Meng Onwei. Il avait quitté la France où est basée l'organisation pour regagner son pays. Son épouse avait signalé cette disparition à la police française. Eh bien aujourd'hui, le Parti communiste chinois annonce qu'il a commis de graves violations de la discipline du parti. Comment interpréter ces accusations? À Pékin, Dominique André.
Meng Onwei a dépensé à sa guise les actifs de l'État pour satisfaire une vie familiale extravagante. La commission centrale d'inspection disciplinaire du Parti communiste chinois vient de rendre compte de son enquête sur l'ancien président d'Interpol. Il est coupable de graves violations de la discipline du Parti communiste. Il faut traiter cette affaire très sérieusement et l'exclure du parti et de toute fonction publique, est-il écrit dans ce communiqué. Cet épisode supplémentaire dans l'incroyable feuilleton d'Interpol en Chine ne donne pas davantage d'informations sur Meng Onwei, qui succombe donc à la campagne anti-corruption lancée par Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Dans un courrier adressé au chef de l'État français, Madame Meng demandait des nouvelles de la santé de son mari, qui n'a toujours pas reçu la visite d'un avocat depuis son arrestation fin septembre. Emmanuel Macron a-t-il transmis cette lettre au président Xi Jinping lors de sa visite d'État en France? La commission nationale qui enquête sur Meng Onwei peut garder un suspect au secret pendant 6 mois. Le délai va bientôt expirer. Pékin, Dominique André, France Inter.
Aucun humain n'a touché le sol de la Lune depuis la fin des missions américaines Apollo en 1972. Eh bien, l'administration Trump veut renvoyer des hommes sur la Lune d'ici 2024. C'est 4 ans plus tôt que prévu. Sophie Becherel, bonjour.
Bonjour.
C'est le vice-président américain Mike Pence qui l'a annoncé hier dans un discours très sévère visant la NASA et son inertie bureaucratique.
C'est ce qu'on appelle se faire botter le train. Mike Pence n'y est pas allé par 4 chemins. Cela nous a pris 8 ans pour aller sur la Lune la première fois, il y a 50 ans, alors que nous ne l'avions jamais fait. Cela ne devrait pas nous prendre 11 ans pour y retourner. Et d'ajouter que si la NASA n'y arrive pas, eh bien des sociétés privées seront appelées à la rescousse. Cet objectif d'une femme ou d'un homme sur la Lune d'ici 5 ans, comment va-t-il s'articuler avec les programmes déjà en cours de la NASA? Mike Pence n'a rien dit là-dessus. L'annonce, à l'image de la présidence de Donald Trump, est à la fois tonitruante et court-termiste, de la politique plus que de la stratégie spatiale, selon Xavier Pascaut, directeur de la Fondation pour la Recherche stratégique.
Là, on a l'impression que cette accélération, pour le coup, est guidée par une volonté beaucoup plus politique à destination d'un électorat américain un peu nationaliste. On remarque dans le discours une insistance très grande sur le fait que ce seraient les Américains qui seraient transportés par des fusées américaines dans des modules américains, etc. Mais du coup, la grande vision originale qui avait été défendue, là, est mise à mal par un programme qui dupliquerait en fait ce qu'a fait Apollo.
La NASA a en effet entamé un programme ambitieux, celui d'une station orbitale autour de la Lune, baptisée Gateway. Elle doit être un port spatial pour des missions plus lointaines. Cette station va-t-elle se transformer en petit module CSM comme dans le programme Apollo, module resté en orbite, vous en souvenez, pour ramener les astronautes sur Terre, ou bien rester quelque chose d'ambitieux? C'est maintenant à la NASA de le dire.
Sophie Becherel, et puis un Français, chercheur en intelligence artificielle, couronné par le prestigieux prix Turing, la plus grande distinction en informatique. Yann Lequin, professeur à l'Université de New York, a été débauché il y a 6 ans par Facebook pour diriger le département de l'intelligence artificielle. Il est récompensé avec 2 autres chercheurs pour ses travaux sur les neurones artificiels. Jawad Ben Daoud, condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec maintien en détention par la Cour d'appel de Paris qui le jugeait pour des menaces de mort contre une victime des attentats du 13 novembre 2015. Dernière page de ce journal, c'est le cinéma, le mercredi bien sûr, les sorties de films avec Eva Bétan. Bonjour Eva.
Bonjour.
Alors Eva, vous avez une bonne nouvelle.
Oui.
Le cinéma en ce moment est passionnant?
Exactement. La question, c'est pas celle du chef-d'œuvre, encore qu'il s'agisse d'excellents films. Il y a des films qui vous donnent de l'énergie, qui ravive le regard, qui décuple la curiosité. Je voudrais vous parler de 2 cinéastes qui remuent. Un Israélien, un Hongrois, petite quarantaine, pas débutant, encore en début de carrière cependant, tout de suite reconnu par les festivals.
Et alors l'Israélien, Eva, c'est Nadav Lapid, synonyme. Son film a reçu l'Ours d'Or à Berlin et c'est un film inter.
3e long métrage et déjà il repas les cartes. Lapid poursuit les mêmes thèmes que dans Le policier et l'institutrice, l'identité agressive d'Israël, mais il va plus loin et dans le questionnement et dans la manière de faire du cinéma. Peut-on se débarrasser de son pays comme d'un manteau et enfiler un autre manteau d'un autre pays qui serait la France? Il confronte la France et Israël, les mythes fondateurs de chaque pays, la France rêvée, la France réelle. Et aussi, il se collate au cinéma français. Il ne fait pas un à la Malière 2, c'est une confrontation et c'est ça qui est intéressant.
Et puis, le Hongrois, Laszlo Németh, son film Sunset est sorti la semaine dernière avec un accueil mitigé.
Oui, ça arrive quand on bouscule. Je vais vous dire, c'est un film qui reste dans la tête et mieux, qui se bonifie encore avec le temps. 2e film de Németh après le film de Saul, film primé à Cannes, événement et pour cause. Il se coltait à cette question éthique. Comment filmer après Auschwitz? Il faisait le choix de soustraire, de ne montrer que des bribes. Le cinéma, c'est ce qu'on choisit de montrer ou pas. Ici, il prend le même procédé. Certains ont cru y voir un truc, mais non. C'est la substance, le sujet, la matière même de son film qui est l'aveuglement. Avant une catastrophe, on ne voit rien. On n'essaie pas déceler les signes. Son film se passe rien moins qu'en 1913. Encore un tout petit mot pour vous parler d'un film qui donne la pêche et j'ajouterai qui met en joie. La Flore, en cours de vision, parce que ce film argentin en 4 parties
très
est
long,
en train
très, très long.
De... Non mais il sort par bout en salle.
Oui.
Donc en cours de vision, on fera le bilan plus tard. C'est un film qui défie les normes de l'industrie et qui suinte du plaisir de faire du cinéma. Donc oui, le cinéma en ce moment, c'est très bien.
Et on rappelle ces 2 films, Nadav Lapid, synonyme.
Synonyme, très bien.
Laszlo Németh, c'est...
Sunset, passionnant aussi.
Merci Eva Bétan. Les couleurs du ciel, la météo, c'est tout de suite.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Voici Sébastien Léas de Météo France.
Des nuages s'infiltrent sur les Hauts-de-France et la Haute-Normandie. D'autres nuages bourgeonnent entre le Grand Est, la Touraine, l'Île-de-France et les Pays de la Loire ainsi que la Bretagne. Les éclaircies sont quand même généralement belles, mais localement, sur l'extrême nord, l'après-midi peut rester bien gris. De la Bourgogne-Franche-Comté au Poitou-Charentes jusqu'aux Pyrénées et aux régions méditerranéennes, l'après-midi se passe sous un ciel dégagé et un soleil radieux. Il faut tout de même composer avec du vent sensible. Autour de la Corse et dans la vallée du Rhône, les rafales peuvent dépasser 70 km/h. L'ambiance se radoucit de plus en plus avec des températures en hausse. Cet après-midi, les maximales atteignent 11 à 16 degrés sur la moitié nord et 14 à 21 degrés plus au sud.